vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode 92. Jules César, les petits lapins et le Tour de France. Chers amis, bonjour. C'est bientôt la fin du monde. Et en attendant la fin de l'année, surtout à Strasbourg, puisque les décorations du marché de Noël sont déjà installées depuis le mois d'avril, il n'y a plus de saison, ma bonne dame, et tout cela, ce n'est pas propice à une atmosphère complice, pas seulement pour la rime, mais pour la frime. Donc, où allons-nous dans cet épisode 92 de « Vous l'avez bien connu » sur Radio Judaïka Strasbourg ? Eh bien, on va au diable ! Et comme on n'a pas le temps, ou alors plutôt remontons le temps, au lieu d'aller au diable, allons jusqu'à Jules César, qui pendant la guerre des Gaules est venu dans notre petit coin pour prendre un repos bien mérité. Ensuite, nous irons à la chasse et nous rigolerons avec les veuves des petits lapins qui lisent les faits divers dans le journal quand les chasseurs se tirent entre eux avec un fusil. Et enfin, pour se dégourdir les jambes, on fera le Tour de France à vélo, oui, et en 1919, puisque c'est la première fois que la Grande Boucle passera en Alsace. Alors toutes ces histoires, vous pouvez les retrouver sur mon blog AFP, Ambroise Fiction Presse, il y en a plus d'une centaine. Et comme aujourd'hui, j'ai envie de nous faire plaisir, cadeau, la musique de cet épisode, ce sera le disque emblématique, tous disent, c'est celui que je préfère, Pet Sounds des Beach Boys. Vous allez garder les airs en tête toute la journée. Alors, première histoire de cet épisode 92, nous sommes en 55 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée, sauf une petite région d'irréductible, irascible. Nous sommes au bord du Rhin. Et ce petit village s'appellera bientôt l'Alsace. Les cigognes de Jules César. Jules César aimait l'Alsace, enfin le territoire à gauche du Rhin. Ici, chez nous, il n'aimait pas les Belges, même s'ils étaient les plus braves, parce qu'ils étaient éloignés des raffinements de la civilisation romaine. Et Jules César craignait les Germains, continuellement en guerre, qui interdisait l'accès à leur territoire par des combats presque quotidiens. Alors nous sommes donc en 55 avant Jésus-Christ. Le général et écrivain romain vient d'envahir la Grande-Bretagne et s'en retourne en Gaule. Il ne veut donc aller ni trop au nord, ni trop à l'est. Le voilà sur la rive gauche du fleuve, dans notre belle Alsace, face au champ d'Écumatte, la forêt noire. Aucun village peuplé d'irréductibles Alsaciens ne saurait résister. La 2e Légion, 6000 hommes répartis en 10 cohortes, aménage un camp à Argentoratum, Strasbourg, qui devient une base administrative. Alors c'est juste à côté de la cathédrale de Strasbourg, maintenant c'est la place du château. Voilà, donc le camp des Romains. Jules César souhaite prendre un peu de repos. Et il s'installe au Heiligenberg pour s'adonner à son loisir. C'est la céramique sigillée. Le redoutable conquérant guerrier César se délasse et devient un sympathique Jules artisan alsacien tournant de jolis petits pots lisses et décorés d'un vernis rouge et brillant au décor en léger relief imprimé à la roulette. Des vestiges de son atelier ont été découverts près de Dinsheim, à l'ouest de Molsheim. Des fouilles ont mis à jour un vaste ensemble de fours indiquant la poursuite de cet art pendant plusieurs siècles pour produire des ustensiles en céramique, des lampes à huile, des amphores, des briques, des tuiles. Une coupe en sigillé décoré par Jules César, se vendait au marché d'Apiacum, aujourd'hui c'est la ville d'Epfig, 5 sesterces. La cruche ne valait que 1 sesterce et la mesure de vin, 1/4 de sesterce. Mais 2 esclaves étaient vendus 5048 sesterces. Donc un esclave alsacien valait un peu plus de 500 coupes en céramique. Mais le temps des poteries alsaciennes fut aussi celui de la stratégie. Face aux présomptueux et offensants raids des Germains, César décida d'apporter son soutien aux Ubiens, une tribu germanique alliée de Rome. Il fallait donc traverser le Rhin et le faire majestueusement. De simples barques semblaient indignes au général et à ses troupes. Et César va construire 2 ponts en bois, considérés comme des chefs-d'œuvre d'ingénierie militaire pour traverser rapidement le fleuve. Alors, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, c'est là où j'ai trouvé tous ces détails, César précise que ces ponts furent détruits après le retour des troupes pour que les soldats romains, mis au repos après avoir battu les tribus germaniques, goûtent sans crainte d'un retour des Germains aux douceurs alsaciennes. On imagine alors Jules César dans une solitude débordante, laissant les affaires courantes à ses fidèles et compétents chefs guerriers et s'adonnant à des recherches tactiques pour son avenir impérial sous des cieux de sereine tranquillité que seuls quelques vols de cigognes longeant le Rhin venaient troubler. Après avoir repoussé les frontières de la République romaine jusqu'au fleuve alsacien, César utilise ses légions pour conquérir le pouvoir à Rome en s'opposant à son ancien allié, Pompée. Acclamé par le peuple, il endosse pour 10 ans tous les pouvoirs constitutionnels, pouvoirs qu'il transforme ensuite en dictature à vie. Les péripéties de la vie de César sont bien connues grâce notamment aux nombreuses correspondances de Cicéron. Mais c'est essentiellement l'archéologie qui permet de comprendre les entreprises militaires de César, les sièges, les campements et l'établissement de colonies, comme celles dont on trouve effectivement les traces dans notre Alsace actuelle. On sait également que Jules César a rédigé plusieurs ouvrages théoriques de grammaire et de rhétorique qui sont considérés comme perdus par les historiens. Mais peut-être des copies sont-elles enfouies quelque part sous des ruines en Alsace ?
Making that much better when we can say goodnight.
de titre Be Nice, ce serait vachement chouette, non? Les Beach Boys, mai 1966, joli lapsus, l'art de la polyphonie, on l'écoute inlassablement, Brian Wilson. Deuxième histoire, alors elle est triste parce qu'il s'agit d'assassinat. Bon, mais alors ce sont des assassins pour rire, alors on peut rigoler. Les chasseurs qui tuent les petits lapins. Heureusement, il y a un bon Dieu pour les venger. Et quand il y en a un qui prend l'autre pour du gibier, les lapins se disent que c'est l'heure d'être rigolo. À mort, les petits lapins! Dans les forêts où il n'y a pas de chasseurs, les petits lapins meurent-ils de vieillesse? Alors parfois, les méchants chasseurs tirent au fusil les uns sur les autres. Et quand elles lisent le journal, les veuves des petits lapins, elles rigolent. Plus nombreux sont les accidents dans la rubrique faits divers, plus angoissées sont nos promenades dans les sous-bois. Ce monsieur en battle dress a une bonne grosse tête de sanglier. Les cheveux en épi dépassent de la casquette et la pointe du fusil portée en bandoulière ressemble, vue de loin, à une crête gominée, roulée en chignon, comme une grosse tête d'épingle dépassant. Il y a une règle bien simple. Ne jamais discuter. C'est dangereux. Un chasseur déterminé vous convaincra qu'il est le premier écologiste de la région et qu'en gros, c'est lui et ses copains qui sauvent la planète. Je devrais dire aussi copine, mais pas à cause de MeToo, mais parce que c'est vraiment vrai, il y a des chasseuses et des chasseresses qui se pavanent comme si elles étaient Diane ou Artémis. Alors, observation personnelle, elles ne sont que blondes et font tout pour ressembler par leur morgue et leur fausse désinvolture à des garçons. On dit qu'elles visent bien mieux que dans La règle du jeu, vous savez, le film de Jean Renoir. C'est un film de 1939, juste avant la guerre, que les petits lapins détestent de père en fils, sauf la séquence hilarante où le vénal braconnier cire les pompes des magnanimes châtelains pacifistes. Finalement, je ne les trouve plus du tout sympathiques, les petits lapins. Ils ne font que créer des polémiques. Ce sont tous des familles nombreuses et on a l'impression qu'il n'y en a que pour eux. Quand je pense qu'à Pâques, qui commence dans les commerces juste après Noël, on va avoir pour un mois, partout en Alsace, sur les comptoirs des boulangeries et les rayons des supermarchés, des petits lapins en chocolat. Pet Sounds des Beach Boys sur la pochette. Des chèvres, mais pas de petits lapins. C'est un album que Paul McCartney adorait. En fait, il était jaloux et les Beatles se sont inspirés de Brian Wilson, le chanteur des Beach Boys. Chanteur et compositeur, il faisait tout lui-même sur cet album, quand les autres étaient partis. Voilà. Troisième histoire, le Tour de France en 1919, pour la première fois après la guerre, en Alsace, pour célébrer le magnifique tricolore alsacien. Je ne vais pas vous faire un historique hystérique sportif. Les détails que je vais vous raconter sont vrais, mais j'ai juste un petit peu mélangé les étapes pour rendre mon récit palpitant. À vos pédales, prêts, partez ! Le vrai vélo du maillot jaune du Tour de 1919. Je roulais sur la très jolie piste le long de l'ancienne voie ferrée à la sortie de Rosanvillers. Un vieux monsieur avait mis son antique vélo à l'envers, roue en l'air, et s'affairait avec des outils aux manches en bois. Il semblait sortir d'une photo sépia avec des cuissardes tricotées en laine noire, une peau de chamois qui protégeait le haut de ses cuisses et une sorte de vareuse de couleur vaguement jaune. « Puis-je vous aider ?» Il me raconta son histoire. Ce vélo avait presque gagné le Tour de France. Ce vélo ? Oui, celui-là. C'était en 1919, la première fois que le Tour passait en Alsace redevenue française. Son grand-père avait alors 17 ans. Il avait été au front en 1917 dans la Rheinisches Jägerbataillon numéro 8 de la 7e armée du Reich. Au retour de la guerre, le soldat allemand devient le forgeron français du village. Un cycliste parut, poussant son engin, la fourche brisée. Il était très pressé. Il donne son nom, Firmin Lambeau. Cela fait 13 heures qu'il pédale. Il a déjà parcouru 320 km depuis Genève. C'est la 12e étape du Tour de France et il doit arriver à Strasbourg le plus vite possible. Et son vélo est cassé. Il est mort de fatigue, de froid et de faim. Mais les organisateurs ont inventé cette année un uniforme publicitaire. C'est un maillot jaune et ils étaient plus de 60 coureurs au départ le 29 juin. Et ils ne sont plus que 11, mais il y a Eugène Christophe, le vieux Gaulois, qui va le doubler. Alors le forgeron écoute, mais ne comprend rien puisqu'il ne parle que l'allemand. Il examine le vélo de Firmin et active le soufflet de la forge. Firmin lui pose la main sur l'épaule et lui dit « Non, je dois réparer moi-même mon vélo, le règlement interdit de l'aide. » L'Alsacien voit le désarroi du cycliste et se dit qu'il y a 2 ans, ils étaient peut-être l'un en face de l'autre dans les tranchées. Il ne peut pas deviner que pendant la guerre, Firmin, qui est belge, s'est tranquillement marié pour vivre des jours heureux. Le coureur tente de parler dans le patois d'Anvers, c'est une sorte de flamand qui résonne un peu comme de l'allemand. Souder sa bécane va lui prendre 2 heures de travail à la forge, trop long. Alors, il plonge la main dans son gilet de laine et de la poche du dos, coincé sous le boyau de secours, il sort de sa cachette un billet de 100 francs, un peu humide de sueur et soigneusement plié. C'est 1 mois de salaire. Il tend le billet au jeune homme et lui dit « Tiens, c'est pour toi. Regarde comme c'est beau. Regarde ce billet. Il y a, en face de la paysanne souriante et dénudée, un forgeron comme toi, avec son tablier de cuir et le marteau sur l'enclume. » C'est ainsi que, discrètement, Firmin Lambeau acheta au forgeron de Rosanvillers son vélo et laissa le sien cassé dans le village alsacien. Le champion cycliste longea le cimetière juif sur sa nouvelle monture. Il traversa la Grosse Barrie, la grande colline bordée d'anémones pulsatiles, et fonça vers la capitale alsacienne. Luigi Lucotti avait déjà gagné l'étape en 15h08min42s. Mais le vélo de Rosenwiller avait des ailes. C'est lui qui remporta les étapes suivantes. Et ce 27 juillet, Firmin Lambeau, équipe La Sportive, gagna le Tour de France 1919 à Paris. Le vélo du soldat allemand traversa les Champs-Élysées, portant Firmin Lambeau jusqu'à l'arrivée au Parc des Princes. Vive la France ! Henri Desgranges, le directeur de la course, avait été dithyrambique. Le Tour de France est un chemin de ronde. Cette année, pour la 3e édition, en partant vers l'ouest pour terminer triomphalement par l'est, nous parcourons 5560 km en 15 étapes avec 67 coureurs au départ. Mais trois anciens vainqueurs sont morts au combat. François Faber, Octave Lapize et Lucien Petit-Breton, morts pendant la guerre. 5000 francs, c'est une fortune pour le vainqueur, 2000 francs pour le deuxième et 1000 francs pour le troisième. Seuls 10 coureurs seront qualifiés à l'arrivée. C'est le premier passage du Tour de France en Alsace après la domination allemande. Une Alsace française pour le Tour de France. Voilà la galvanisante célébration du journal aux pages jaunes, l'Auto, comme l'ont lu les lecteurs. Strasbourg, Metz, et ce n'est pas un rêve, nous allons là-bas, chez nous. Nous verrons de Belfort à Haguenau toute la ligne bleue des Vosges qu'avant la guerre nous contemplions à notre droite. Nous allons longer le Rhin. Avec Strasbourg et Metz, nos ambitions sont repues. Le Tour de France est complet. Et moi, cycliste d'un dimanche de 2024, j'admirais sur ce sentier de ce charmant petit village alsacien une vieille bécane à la fourche brisée que je saluais et que je qualifiais de monument historique à la gloire du vélo inconnu.
But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
God only knows what I'd be without.
God only knows, et si Dieu n'est pas au courant, pas grave, on s'en passera et on repassera la plus belle des chansons des Beach Boys sur l'album Pet Sounds, les bruits des animaux domestiques. La semaine prochaine, cadeau de Noël, Coluche qui offre une Bugatti au Restaurant du Cœur, l'histoire d'un soldat allemand amoureux d'une Alsacienne en 1870 et une autre bagnole, presque de luxe, une 203 Peugeot entièrement démontée et remontée en 1960. C'était, vous l'avez bien connu, épisode 92, l'émission de Radio Judaïka Strasbourg, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom, c'est Ambroise Perrin.
Two fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever.